Une toile, ça parle pas par définition. Et nous, on a parlé beaucoup sur donc mon travail, ma peinture et tout ça. Et tout ce discours-là, c'est aussi une invitation, c'est un peu aussi un mode d'emploi, quelques pistes d'accès à cette peinture, mais ce ne sont que quelques pistes d'accès. J'espère que dans l'enregistrement, on va donner à l'auditeur la possibilité et la liberté pour lui-même d'inventer ses propres pistes d'accès. C'est-à-dire chacun est différent face à une toile.
Donc le paradoxe de cette réalisation sonore, ce serait qu'elle puisse permettre à des gens d'être neufs devant une de tes toiles.
Par exemple, oui, et surtout si ça permet d'abandonner sa perception connue, hein, pour entrer dans un monde inconnu qui est toujours celui d'un peintre, n'importe lequel, à ce moment-là, quelque chose a été créé, quoi. Quelque chose a été libéré, quelque chose a été...
La surface du tableau voile et dévoile à la mesure du regard. Entre les lignes, entendre les silences. Établir les liens. Recoudre le temps.
Je me pose toujours la question, pourquoi je suis peintre, pourquoi j'ai jamais été autre chose que peintre? Ça devait être écrit quelque part. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, puisque je crois que c'est un choix qui ressemble à un non-choix et qui se transforme petit à petit en choix. Je ne sais pas. Je me souviens étant petit, d'une émotion que j'avais en visitant des musées, où je me rappelle en particulier au Louvre, où voyant des tableaux monumentaux, pleins d'histoires et de personnages, d'animaux, de choses comme ça. Je ne voyais pas des tableaux d'artistes, je voyais des images surtout. Et c'est ces images-là qui m'ont vraiment beaucoup impressionné. Et en fait, au début de ma peinture, j'ai l'impression que j'ai beaucoup travaillé plus l'image qu'une idée de l'art ou quelque chose comme ça. Étant petit, quand j'ai rencontré ces tableaux, ces immenses tableaux, j'ai vu que c'était... Une sorte de fenêtre sur un invisible, sur un monde tout à fait nouveau. Et je pense que j'ai dû vouloir entrer dans ce monde-là, dans cet univers-là, qui me paraissait un monde de liberté, vraiment en dehors de toute trace prédéterminée, ou toute convention, ou toute ce qui me faisait extrêmement peur par rapport au monde adulte que je voyais autour de moi. Et qui me paraissait tout déjà écrit. Et j'avais envie, je crois bien, de rentrer dans cet espace-là, c'est-à-dire d'écrire moi-même le monde dans lequel je voulais vivre. Ça fait environ 25 ans que je peins. Et pendant une dizaine d'années, je n'avais rien nommé du tout, et j'étais devant un ensemble très, très divers et dans tous les sens. Et c'est au bout de 10 ans de peinture que je me suis dit, il faut que je regarde, que je prenne un peu de recul, et que j'arrive à articuler l'ensemble de mon travail pour essayer de trouver une direction, un sens, pourquoi je fais tout ça, etc. Et j'ai commencé à nommer les séries environ après 10 ans de peinture. Et je me suis rendu compte que, après tous les espaces imaginaires qui ont été mes premières peintures, où c'était un petit peu une vie rêvée, j'ai fait tout un travail que j'ai nommé après coup les espaces réels.
1973-1979. Espace imaginaire. 1979-1983, espace réel et interprété. Paysage codifié, paysage aux intervalles, espace réel et connexion, Espace réel et circulation.
Les paysages réels, je divise cette série en trois sous-groupes. Donc le premier sous-groupe que j'appellerai donc le plan de l'habitation de Lavoisière, donc le plan de l'habitation du peintre, sont des toiles dans les tons gris, noirs même, avec une palette chromatique très très réduite. Donc le deuxième sous-groupe, qui est radicalement différent, parce que là on augmente d'une dimension, on passe à trois dimensions, donc l'espace classique avec un effet de perspective. On est face à un immense champ, les toiles sont toujours aussi sombres, mais on observe pourtant l'apparition d'une nouvelle teinte qu'on observera ensuite par la suite dans tout ce qui est mémoire de scène et opéra silence. C'est une teinte verte, terre verte. Donc une lande qui va à l'infini, et puis sur certaines toiles, un début d'échafaudage, donc qui se dresse dans un ciel plombé, qui est très sombre, très, très bas, lourd. Donc ensuite, le troisième sous-groupe que j'appelle la cour de Lavoisière. Donc là, le peintre ne représente plus le plan architectural, mais il représente les ailes des bâtiments, là aussi à deux dimensions, donc comme une vision aérienne. Il représente les ailes des bâtiments par des aplats sombres qui délimitent donc la cour. Une cour ocre sur laquelle la texture est très importante.
Toute cette série Espace réel, j'ai fait systématiquement une recherche de là où j'étais en utilisant plusieurs registres, des registres intellectuels comme le plan aussi, le plan de là où j'étais. Des registres aussi de circulation. J'ai défini l'espace par les circulations que je faisais dans la maison ou dans la cour de Lavoisière étant la maison que j'habitais avant. J'ai essayé de m'approcher de plus en plus de ce que je pensais être la vie réelle. Maintenant, avec du recul encore, je me rends compte que j'ai cherché comme un fou, vraiment dans toutes les directions, pour avoir cette sensation qui n'était pas de l'imaginaire.
Donc en fait, toute cette série tend à poser les bases de cet espace pictural, exactement comme lorsqu'on définit un espace mathématique, on va définir les lois mathématiques qui le régissent, les axiomes, les postulats. Et bien là, le peintre, en fait, définit, pose les fondations de son espace pictural. Alors bon, là, les lois, ce sont des lois qui lui appartiennent, qui à la rigueur, ne comprend pas encore tout à fait. Mais enfin, l'étape fondamentale, elle est là, et elle est fondatrice, quoi. Donc, en fait, ces toiles, c'est vrai qu'elles nous apparaissent comme assez dures, assez nihilistes, c'est-à-dire... Il y a une sensation de peur, et on comprend en fait cette peur, car donc jusqu'à maintenant, les espaces imaginaires lui avaient permis de bâtir un monde dont il a vu pourtant les limites, et là il fiche tout par terre. Donc la peur de tout mettre par terre, car en fait on ne sait pas ce qu'il y aura par la suite.
Il y a eu beaucoup d'étapes dans ma peinture, et ma peinture dévoile tout, y compris des choses qui ont été très dure, très enfermée ou très ouverte ou très lumineuse ou très sombre. Enfin, ma peinture a traversé tous les stades que j'ai traversés, et c'est aussi en cela que je peux dire qu'elle est belle, parce que vraiment elle était inconnue pour moi et que j'en découvre petit à petit toute la richesse qui m'a permis d'avancer grâce à elle. Et quand je regarde certaines peintures de certaines époques de ma vie, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'effraient de voir avec quelle intensité j'ai vécu des moments difficiles. Mais finalement, je me dis, cette intensité est belle. Même si la peinture m'effraie, je me dis qu'il y a quelque chose de véridique dedans. Pour moi, un artiste qui fait du beau, c'est vraiment un décorateur. C'est quelqu'un qui refait quelque chose que tout le monde a déjà bien assimilé. Même si tout le monde ne l'a pas bien assimilé, il y a, enfin disons, C'est quelqu'un qui est un petit peu en retard. C'est un artisan qui fabrique des copies d'anciens, quoi. Ou même l'ancien peut être il y a 2 ans. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt ça, faire du beau. C'est-à-dire pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va vers l'inconnu. C'est-à-dire qui défriche sa parcelle d'inconnu. Et c'est ce qui me passionne le plus en art, c'est justement le pas suspendu vers cet inconnu. Et cet inconnu-là, je dirais, il n'est pas beau d'emblée, quoi. Il sera beau après, une fois qu'il sera né. Il sera beau, s'il est juste, il sera beau. Et c'est plutôt le geste juste du peintre qui sera beau, mais qui, au moment où il fait, quand il n'est pas encore connu, il est tout... comment dire, il est à découvrir, sa beauté est à construire après, dans le temps, quoi, dans son observation, dans sa contemplation, etc. Je crois que le beau aussi, c'est une question de perception. Le beau, il est très différent pour chacun. Bon, et puis il y a les canons, il y a des normes, il y a des modes. Moi, j'essaye d'aller vers l'inconnu, c'est-à-dire j'essaye de prendre ma liberté. Ce qui n'est pas simple du tout, parce que on est contraint par des tas de choses, même plus ou moins insidieuses. Et je crois que plus on arrive à poursuivre son élan, plus on arrive à travailler sa propre liberté, ce qui c'est un grand sport, plus on arrive à être en adéquation avec soi-même, plus ce qu'on fait devient une œuvre, quoi. Plus bon, mais je crois que c'est tout le travail qui n'est jamais achevé.
Et donc, peut-on préciser davantage alors ce qu'est un artiste? C'est un inventeur, c'est un...
Je dirais que c'est un inventeur, c'est aussi un passeur. Moi, les artistes qui m'ont beaucoup impressionné et beaucoup aidé sont des gens qui m'ont aidé à passer des caps. Comme Barnett Newman m'a aidé à passer des caps. Il y a plein d'autres artistes comme ça. Motherwell aussi. J'en ai pas l'esprit comme ça. Mais pour moi, chaque grand artiste m'a touché et m'a aidé à passer quelque chose, à passer une perception que je n'avais pas intégré, ou j'ai l'impression qu'un artiste donne de l'élan à chacun, donne l'élan de chacun,